Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode d'Evelyne et Gabrielle font un podcast!
Oui!
Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, Gabrielle Caron, en compagnie de mon amie et historienne, Evelyne Ferron.
Bonjour!
Et aujourd'hui, Evelyne, on a tout un sujet qui nous attend.
Qui nous a été demandé par beaucoup de gens.
C'est ça que j'allais dire. C'est un sujet qui nous a été demandé et comme nous sommes à l'écoute de nos auditeurs, nous allons en parler. Aujourd'hui, on va parler d'Elisabeth Báthory. Là, j'ai-tu bien prononcé son nom?
Ben, de la manière dont on le prononce en français, oui, parce qu'en hongrois, honnêtement, même moi, ne me demandez pas des prononciations qui ont du bon sens.
Écoute, moi, Elisabeth Báthory, c'est un personnage qui m'a beaucoup fascinée quand j'étais plus jeune, puis même encore aujourd'hui, j'ai lu des romans sur elle. Ce que j'aime, c'est que on sait tout et son contraire sur elle. J'ai l'impression qu'avec les années, avec l'amplification, avec les atrocités qu'elle a commises, ben, on a vraiment augmenté. On l'a vraiment rendue encore plus terrible que ce qu'elle était en réalité. Puis là, je dis pas que c'était une bonne personne. Là. Je suis consciente qu'elle a fait des choses atroces.
On a une tueuse en série, en fait.
C'est ça!
Mais plus qu'un vampire!
Mais tu sais, est-ce que 100% des choses qui sont dites sur elle sont vraies? Je ne crois pas. Permettez-moi de douter. En plus, j'ai réalisé, et là, je fais une petite tranche de vie, là. Quand j'étais plus jeune, est-ce que tu as connu les jeux de société Atmosphère?
Ben oui! Atmosphère! Je suis tellement contente que tu me parles de ça. Je les ai toutes faites. Mon préféré, c'était Baron Samedi, mais... le 2, donc. La sorcière Anne de Chanterelle était un peu plus poche, j'aimais moins celle-là. Mais oui, Atmosphère, écoutez, là, il y a une question de génération ici, mais
oui.
Tout ce qu'on a eu du plaisir avec ces jeux-là, passer des après-midi de pluie dans des sous-sols, les lumières
oui,
fermées.
Le jeu de société avec un VHS, là, c'était le meilleur jeu. Mais il y a un lien, quand même, il y a un lien entre Atmosphère et Elisabeth Báthory. C'est que Elisabeth Báthory est un des pions dans le jeu Atmosphère, le seigneur des clés. Donc, c'était le pion gris qui était une pierre tombale.
Mais elle est un personnage aussi.
Dans lequel?
Ça doit être le 5 ou le... pas le 6, mais ouais, elle était un personnage, il me semble qu'elle est là. Elle intervient dans les vidéos, dans les derniers, parce que dans les femmes, t'avais Anne de Chanterelle. Ça, je m'en rappelle très, très bien. Mais écoute, si on fait une légère pause... J'avais raison. Et là, c'est la 4.
Ah, ben c'est ça. Moi, j'ai juste joué au Seigneur des Clés. Et celui des Seigneurs des Clés, elle était un pion. C'est ça. Elle était un pion. Et moi, je prenais toujours, toujours, toujours ce pion-là, alors que je ne savais même pas c'était qui, Elisabeth Báthory. Donc, tu vois, ça a commencé comme ça. Et là, après, je me suis intéressée à son histoire. J'ai lu sur elle et j'ai découvert son histoire horrible. Alors, voilà. Mais là, Evelyne, tenons-nous-en au fait.
Bon, les faits sont un peu moins, peut-être un petit peu moins, je dirais, détaillés que ce que tous les romans et films et autres ont pu faire avec ce personnage-là, parce que, bon, oui, elle est dans le jeu Atmosphère, mais tu sais, elle est dans à peu près tout documentaire ou toute série qui veut s'intéresser à des femmes tueuses de l'histoire, elle est inévitablement là. Et quand on veut faire un petit documentaire un peu sensationnaliste sur les vampires, parce qu'elle est native de la Transylvanie, donc même région que le comte Dracula, même si elle a vécu en Hongrie une bonne partie de sa vie, elle est native de la Transylvanie, c'est sûr que ça est un peu inévitable et c'est sûr d'avoir des femmes comme ça, tu sais, qui ont des lubies un peu particulières, donc ils pensent qu'ils vont avoir la jeunesse éternelle en se baignant dans le sang de jeunes femmes vierges. C'est vendeur, on va se dire ça comme ça. Donc, elle est terriblement populaire, mais parce qu'elle est populaire, ben comme on manque de documentation historique, ou qu'il y a beaucoup de choses qui sont incertaines, ben ça permet beaucoup d'exagération parce que il y a personne vraiment qui va être là en disant ben c'est pas vrai, dans les faits c'est qu'on le sait juste pas. Donc le flou autour d'elle permet beaucoup de fantasmes, je dirais, autour d'une femme tueuse.
Est-ce qu'elle est officiellement la première tueuse en série reconnue?
Oui et non, parce que c'est toujours la question de la définition, est-ce que c'est tueur en série ou pas, est-ce que c'est psychopathe ou pas, tu sais, ça ce sont des termes qui sont arrivés très tard dans notre histoire, donc des fois de se réapproprier ça à d'autres personnages historiques, c'est sais, c'est pas toujours évident parce qu'il nous manque des fois du contexte ou des choses comme ça. Parce que souvent, t'as des femmes, sans qu'elles aient été si connues que ça, qui aidaient leur mari ou qui vont aider leur seigneur à faire des choses comme ça. En fait, souvent, les tueuses en série vont entrer dans la catégorie des sorcières. C'est là où c'est flou. On va les traiter de vieilles sorcières, puis on va les exécuter comme étant des sorcières, mais dans les faits, elles ont commis des meurtres. Donc,
dans les faits, elles n'étaient pas sorcières,
elles étaient tueuses. C'est ça. Donc, tu sais, on s'en va du côté de l'Écosse, on s'en va du côté de l'Irlande, en France aussi. On a des femmes qui, avant Elizabeth Bathory, ont été exécutées parce que, justement, elles avaient tué des enfants, entre autres, ou des hommes. Et on les a classées dans la catégorie sorcières. Donc, c'est ce qui fait que des fois, elles sont difficiles à trouver. Donc, je te dit non, elle n'est pas la première tueuse en série de l'histoire en tant que femme, assurément pas, mais c'est une des premières qu'on va faire entrer dans une catégorie à part. Il faut dire aussi que contrairement aux autres cas qu'on peut avoir où ce sont souvent des vieilles femmes qui ont un certain talent, je dirais, qui vont vivre ou vont avoir une protection d'un seigneur de par leur talent, là ici on a une femme de la haute noblesse qui est très proche en fait de la royauté, qui fait partie d'une des plus anciennes familles de Transylvanie, les Bathory. Donc, c'est sûr que là, on est dans une autre catégorie. C'est ce qui fait que cette femme-là n'a pas été exécutée. Alors, ça, c'est une des particularités, vu le nombre de crimes qu'elle a commis, même si on n'est pas capable de les chiffrer, parce qu'évidemment, il y a des exagérations pas possibles là, au niveau des chiffres.
666?
Ouais, non! C'est ça. Ça, du côté des historiens, on doute énormément, parce qu'on a quand même quelques archives. Là. On a les minutes de procès, on a des lettres qui ont été échangées aussi, des palatins qui ont été mandatés par le roi de Hongrie, Mathias Ier, pour investiguer les rumeurs. Il y a quand même des archives. Là. Et donc, ça ne laisse pas aller jusqu'à des chiffres aussi élevés. Là.
OK, mais attends. Là, avant qu'on parte dans le procès et tout, revenons au début. On est en quelle année? On est où?
Ben, on est au départ en Transylvanie, si on parle de la jeunesse de cette jeune fille-là. Donc, on est dans une famille de la haute noblesse, une très ancienne famille, en fait, on pourrait dire, de chevaliers, là, parce qu'on entre dans les grandes lignées du Moyen-Âge. Donc, au Moyen-Âge, je fais une histoire très courte là-dessus, là, mais c'est sûr que les seigneurs, les rois, en fait, réussissent à maintenir les royaumes qu'ils constituent en donnant des terres agricoles à leurs chevaliers, à leurs militaires, qui deviennent donc aussi des seigneurs. On va placer ça comme ça. Et du côté de ce qui est la Transylvanie, donc on est vraiment dans les secteurs de la Roumanie, Pologne, Hongrie. Là, on joue beaucoup là-dedans au niveau géographique. Dans les très anciennes familles chevaleresques et de la haute noblesse, donc qui sont les Bathory. Et c'est la raison pour laquelle elle a gardé son nom de jeune fille, même une fois mariée, parce que le mari en question préférait prendre le nom de son épouse, ce qui est très, très rare, parce que c'était une des plus illustres familles quand même de la région de la Transylvanie. Donc, c'est un cas assez unique déjà en ce sens-là dans l'histoire. Et bon, on est d'une famille noble, c'est une jeune fille donc qui a une éducation de très haut niveau pour l'époque. Donc, on est dans les années 1560 là, pour son enfance. Ça veut dire que c'est une femme qui était éduquée en lettres, qui est éduquée même un peu en mathématiques, elle sait très bien lire, elle sait écrire, elle est éduquée en base de philosophie. 1560, on est en plein cœur de la Renaissance, hein? Et l'éducation est centrale. On a une éducation humaniste, en fait, pour les gens de la noblesse. C'est son cas. Ça veut dire qu'elle a quand même une connaissance du monde qui l'entoure. C'est pas juste, justement, quelqu'un qui a vécu dans l'obscurantisme religieux puis qui va se mettre à avoir un bad trip, si vous me permettez l'expression. On n'est pas là-dedans. Non, mais il y a des personnages qui vont peut-être plus entrer dans ces catégories-là, ce n'est pas son cas à elle. Et donc, ce qu'on sait, c'est que il y a un comte qui va vouloir l'épouser, parce que bon, ça marche comme ça, là. Vous faites partie des hautes familles de la noblesse, vous choisissez pas votre époux, ce sont des mariages arrangés, et avant son mariage, ben elle a décidé qu'elle couchait avec un jeune homme, puis qu'elle allait avoir du gros plaisir, puis qu'elle allait tomber enceinte, malheureusement, dans ce contexte-là. Oui, son histoire commence de manière déjà un peu
rock'n'roll,
pour une jeune femme bon, qui est dans la fin de l'adolescence à peu près, tombée enceinte de manière illégitime alors qu'elle est sur le point de se marier. Tu sais, il y a quelque chose d'un peu assez rare, je dirais. Et le jeune homme en question, donc le comte qui veut l'épouser, est tellement... Il y a un nom pas prononçable, là, mais Stephen ou quelque chose comme ça. Bon, on va laisser ça tomber pour ma prononciation. Mais le comte, le jeune homme en fait qui veut l'épouser, il se dit, ben garde, moi je veux entrer dans la famille des Bathory. Pour moi, c'est une porte d'entrée, c'est une fortune aussi qui vient avec ça, parce qu'ils ont des très beaux châteaux, tu sais, ils sont très riches aussi, là. C'est une femme qui est fortunée, Elizabeth Bathory, donc le futur époux se dit, ça va, elle est enceinte, c'est pas grave, je vais l'épouser quand même. Elle va donc accoucher en secret, on ne saura jamais ce qui était devenu du dit enfant. Donc, est-ce le premier meurtre? C'est une possibilité que le nouveau-né, disons, soit a été donné ou est disparu, mais l'époux a fait assassiner le jeune homme responsable de la grossesse, par contre. C'est sûr qu'on le fait disparaître. Fait que ça commence de manière quand même déjà... on est dans un conte de Barbe Bleue et non pas dans un conte de fées, là, si on peut dire ça comme ça. Et elle va déménager, en fait, en Hongrie parce que son époux est plus, bon, on va dire, hongrois. Là, c'est parce qu'à l'époque, c'est un peu... Le royaume de Hongrie, c'est pas la géographie actuelle de la Hongrie. Là. Ça inclut en fait une partie de ce qu'est la Slovaquie. Bon, on touche à tout ça. Donc, elle est plus du côté de la Slovaquie, en fait, où elle va vivre sa vie dans son château et tout ça. Et son mari est aussi, en fait, violent qu'elle, ou peut-être est celui qui peut être responsable de, je dirais, le fait qu'elle n'a pas beaucoup de pudeur par rapport au meurtre ou à tout ce qui est sadique, parce qu'on a du courrier qu'ils se sont échangés pendant que son mari est souvent parce que son mari donc va devoir aller en campagne militaire quand le roi le demande, alors il est souvent en campagne militaire, mais ils échangent des lettres et la jeune femme qui est Elizabeth Bathory et lui vont échanger quelques trucs sur comment torturer au maximum quelqu'un dont on veut soutirer de l'information, arracher des ongles.
Du beau courrier romantique de nouveau marié.
Oui, là. C'est ça. C'est très particulier et elle va tester des techniques de torture sur ses servantes. Alors, ça commence un peu comme ça, en fait, cette histoire-là. Et on ne sait pas, justement, si son mari était au courant de ce qu'elle faisait quand il n'était pas là, mais on suspecte très fortement aujourd'hui que les crimes vont naître un peu de ça. Ça veut dire qu'on teste des techniques de torture, souvent sur des jeunes servantes de familles pauvres qui disparaissent, ne reviennent jamais à la maison. Et bon, ça s'arrête à peu près là. Il y a même des lettres où il parle de comment les enterrer dans le jardin pour pas que tout le monde soit trop courant quand quelqu'un meurt d'une pratique de torture. Et là, ce qu'on ignore, c'est les trous, en fait, qu'on a dans cette histoire-là, c'est que c'est probablement pendant que son mari est en campagne militaire, donc avant qu'il décède, parce qu'il va mourir au combat, elle va devenir veuve, Elizabeth Bathory, mais elle va devenir la gestionnaire, en fait, de l'État, du domaine, finalement, seigneurial, on pourrait dire ça comme ça, de son époux. Là. Elle va devenir la régente, si on peut dire ça comme ça, sans enfant. Il y a beaucoup dans les rapports qui vont suivre plus tard, cette idée qu'il y avait une vieille femme, une vieille sorcière, parce que c'est toujours, il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière ça. C'est comme si une jeune femme de la noblesse ne peut pas penser à ça elle-même. Alors, on a cette idée qu'il y avait peut-être une vieille femme, une vieille sorcière qui était derrière ça et qui aurait convaincu Elizabeth Bathory que pour rester belle, elle est jeune parce que quand elle commence à vieillir, elle était, de ce qu'on en sait, très jolie. Les portraits qu'on a d'elle, c'est des portraits présumés ou supposés, donc on n'a pas de confirmation. Là, il y a deux portraits qui circulent qui peuvent lui être attribués, mais on ne sait pas si ce sont réellement ses portraits, donc on ne sait pas à quoi elle ressemblait exactement. Donc, il y a un petit mystère autour de ça. Alors, ça plane. Et Elizabeth Bathory, donc, est-ce que cette sorcière-là lui avait donné des conseils pour garder une peau jeune parce qu'elle angoissait à l'idée de vieillir et voulait la jeunesse éternelle? C'est là où on a un flou, mais il y a quelque chose qui se passe dans sa tête, inévitablement, où elle a cette espèce de lubie où elle veut rester jeune à tout prix et où le sang de jeunes vierges, donc de jeunes femmes qui ne sont pas encore mariées, qui n'ont pas enfanté, serait probablement la meilleure façon de garder la peau la plus jeune possible. Et c'est de l'oxrénée.
Est-ce que cette sorcière-là, ou du moins cette vieille femme-là qui gravite autour d'elle, est-ce qu'on a des preuves qu'elle a existé ou c'est comme un personnage créé de l'imaginaire collectif?
Il n'est pas créé de l'imaginaire collectif à 100%. En ce sens où elle figure dans les rapports qui sont faits au roi Mathias Ier, qu'on suspecte que peut-être on parle dans les villages et tout ça autour, qu'il y aurait une vieille sorcière derrière tout ça et qu'elle l'aurait logée d'ailleurs dans un bâtiment attenant à son palais, mais il n'y a pas de rapport ou de trace écrite qu'on ait trouvé une femme comme ça. C'est sûr qu'il y a des gens de l'entourage d'Elizabeth Bathory qui vont être exécutés pour avoir contribué à lui fournir en fait la chair fraîche dont elle a besoin, mais on n'a pas le rapport d'une vieille dame qui correspondrait peut-être à ce que la rumeur populaire a amené aux oreilles des palatins et des gestionnaires qui sont envoyés par le roi de Hongrie. Parce que c'est ça qui se passe. Donc là, pendant quelques années, elle n'est pas vraiment dérangée, elle là. Son mari meurt, elle embauche des servantes, elle embauche plein de gens, mais ces jeunes filles-là ne reviennent jamais à la maison. Mais là, il y a des gens qui, au palais, voient bien qu'on enterre des fois des corps ou qu'on en brûle, qu'on brûle des vêtements. Et c'est sûr que là, la rumeur populaire a pris vraiment une ampleur qui est quand même assez importante. Et c'est ce qui fait que lorsqu'on arrive, déjà dans les années 1605-1606, le roi de Hongrie commence à avoir des rapports qui sont un peu inquiétants parce qu'elle relève de lui d'une certaine façon. Ça reste une seigneurie, c'est une comtesse. Elle gère en fait un domaine et donc ça veut dire dans les villages et dans les communautés qui sont affiliées à son domaine, là, il y a de la rumeur qui passe comme quoi il se passe quelque chose de vraiment terrible en fait à son château et voilà.
Puis j'imagine que les paysans peuvent pas rien faire parce qu'elle est trop puissante.
À part dire qu'il se passe quelque chose, ils n'ont pas de preuves. Tout ce qu'ils ont comme preuve, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui sont embauchées, mais qui ne reviennent pas, ou celles qui ont réussi à fuir ne parlent pas beaucoup. S'il y en a qui auraient réussi à fuir, mais qui avaient des blessures vraiment particulières, des bleus, des coupures, des choses comme ça. Mais tu vois, ça, historiquement parlant, c'est très difficile à établir. Ça fait partie un peu des rapports et des rumeurs que les hommes mandatés par le roi de Hongrie vont rapporter au roi assez pour que là, à un moment donné, ils disent non, il y a arrestation, il y a enquête, puis on va fouiller aussi autour du palais parce que ça commence à les ragots ne sont plus des ragots, ça commence à être une forme d'hystérie collective, effectivement, qu'on va voir où les gens commencent à paniquer et ont peur d'elle. Le roi ne pouvait pas se permettre ça. Et comme son mari était décédé, là, c'est le roi qui va intervenir directement. Et c'est un peu comme ça, en fait, que là, les gens qui lui kidnappaient aussi des jeunes filles, parce que oui, il y en a qui étaient à l'embauche, mais c'était pas assez. Alors, il y a des jeunes filles qui ont été kidnappées aussi dans les campagnes un peu partout pour lui servir, en fait, de chair fraîche. Et là, dans le fond, ce qu'on entend de la part des gens mandatés par le roi Mathias Ier, c'est qu'on parle de corps complètement vidés de leur sang qui traînaient dans les jardins avant d'être brûlés. Il y a des gens qui ont vu des choses comme ça, des blessures un peu étonnantes aussi à différents endroits sur le corps. Ça fait partie comme de l'histoire d'Elizabeth Bathory. Et là, arrivent aussi ces rumeurs que pourquoi les corps sont vidés de leur sang, c'est qu'on vide ce sang-là dans son bain et qu'elle se baigne littéralement dans le sang des victimes. Et là, il y a les espèces d'égouts, en fait, les drains, parce qu'il va falloir vider tout ça, qui auraient craché du sang. Et bon, là, tu sais, c'est sûr que ça prend. Il y avait du sang qui sortait dans le gazon plus loin. Tu sais, on a toutes sortes de choses comme ça qui sont rapportées. Donc, c'était assez pour qu'un roi décide. Là, je suis désolée, là, mais...
On s'en vient.
Ouais, donc en 1610, là, il va y avoir arrestation, il va y avoir procès. Procès auquel elle n'assiste pas parce que faisant partie de la noblesse, elle a le droit de se soustraire à un procès. Elle ne veut pas participer au procès, donc elle est, dans le fond, maintenue à résidence dans son château, c'est ça qui arrive. Mais là, les gens vont témoigner parce que maintenant, il y a quand même une commission royale qui est en charge d'essayer de faire la lumière sur des disparitions d'une part, mais sur des ragots qui ont pris une telle ampleur que ça ne peut pas être juste de la rumeur. C'est comme ça que, il y a beaucoup de gens de son entourage qui vont aussi être interrogés, probablement torturés aussi pour faire sortir certains faits. Et là, ce qui sort, c'est qu'effectivement, elle se baigne dans le sang des jeunes vierges parce qu'elle est convaincue que c'est ce qui va lui maintenir une jeunesse éternelle et qu'il y aurait donc des rituels de type satanique qui sont peut-être associés à ça. C'est assez. Là. C'est sûr que les gens qui ont participé au kidnapping ou qui ont été de près ou de loin témoins de ça, qui n'ont jamais rien dit, qui l'ont aidé pendant des années, vont tous être exécutés. Mais pas elle, parce que c'est une comtesse. Donc, comme elle fait partie d'une des plus anciennes familles de la noblesse, on ne peut pas l'exécuter comme ça. Donc, elle va être en fait condamnée à rester enfermée dans une pièce de son château où elle n'aura pas le droit de voir la lumière du jour jamais. Elle ne sortira plus de là et elle va être nourrie avec du pain et de l'eau et c'est tout, là.
Est-ce que c'est vrai que la porte était murée puis qu'il y avait comme juste un espace?
Juste une trappe! Ouais, en bas. En fait, même pas en haut. Toi, tu fais en haut. Là, les gens ne te voient pas.
Ouais, les gens ne voient pas.
Mais en fait, dans le bas, effectivement, il y a comme dans le fond une petite trappe pour lui passer, qui permet de passer un plateau pour pouvoir passer la nourriture. Et c'est tout ce qu'elle a comme contact avec le monde extérieur. Donc, on s'entend que dans des conditions comme ça, tu ne vis pas très, très longtemps. Donc, elle va vivre à peu près 4 ans de plus et elle va mourir donc en 1614.
Est-ce que c'est vrai que dans sa chambre, il y avait un méga gros miroir pour qu'elle se voie vieillir?
On le sait pas. Tu sais, je vais dire ça, tu vois, c'est pas dans les rapports ou dans les lettres ou dans les registres qu'on a. Ça peut faire partie des ragots populaires, mais je veux dire, historiquement parlant, on n'a pas vraiment de description tant que ça de sa chambre, des choses comme ça. On parle plus de ce que les gens disaient du sang qui sortait à l'extérieur dans le gazon. C'est sûr qu'on a trouvé des traces de feu, de bûcher aussi sur le territoire du château. Il y a des squelettes qui ont été découverts, mais tu sais, c'est mineur. Donc, les rapports, ben, on se dit, elle a tué probablement entre 60 et 80 personnes minimum pendant, sur quoi, peut-être une vingtaine d'années. Et ben, c'est sûr que là, quand les gens écoutent la rumeur populaire dans la région, Transylvanie, ajoute ça au mythe de Dracula, on est rendu effectivement souvent avec des gens qui vont aller jusqu'à dans les 600 morts, ce dont je doute. 600 morts, le roi Mathias n'aurait entendu parler bien avant.
Quand ils sont rentrés dans le château, là, mettons, qu'est-ce qu'ils ont trouvé?
Pas grand-chose! C'est sûr que tu peux pas laisser de preuves de ça, là, tu sais, je veux dire, tu peux pas dire, ah, OK, je laisse le sang là, un peu partout, c'est qu'ils ont trouvé des traces de sang à différents endroits, mais c'est des traces, on s'entend qu'ils n'ont pas trouvé des bains de sang ou des coulées de sang, c'était nettoyé après, là, tu sais, je veux dire, elle, c'était quand même une comtesse reçoit des gens, un travail aussi à faire de gestion, où faut s'assurer, là, que les comptes soient payés, puis que, bon, les tenanciers des terres agricoles, elle avait ça à faire, en théorie, comme travail, là.
Oui, elle pouvait pas être à temps plein sur vider des jeunes filles de leur sang, là.
Voilà, tu sais, elle faisait des réceptions et tout ça, fait que tu peux pas garder un palais, puis de toute façon, c'est pas dans toutes les pièces du palais que ça se faisait, là, c'est souvent dans les sous-sols, tu sais, c'est... donc, il y a pas de grandes scènes de crimes qui ont été découvertes, mais il y a des traces, surtout à l'extérieur, entre autres de squelettes, de preuves d'incendie, de bûchers, tout ça, des vêtements qui ne semblaient pas être de sa classe à elle, qui ont été trouvés. Ça fait partie un petit peu des preuves qu'on avait pour dire que la rumeur était peut-être un peu fondée.
Parce que moi, dans certains livres que j'ai lus, là, t'sais, ça disait quasiment là, qu'elle s'était installée une chambre des tortures au sous-sol, puis que c'était très sophistiqué.
Très probablement, oui. Mais ça, avec son mari, la chambre existait peut-être déjà. Mais des chambres de torture dans des palais comme ça, c'est pas si rare que ça. Parce que t'sais, c'est sûr que s'il y a des gens qui menacent ton domaine ou autre, t'as un donjon, tu peux faire des arrestations, t'es un seigneur. C'est normal dans un château comme ça qu'il y ait dans les sous-sols des prisons et peut-être des instruments pour faire parler des gens. On n'est pas à une époque où il y a des droits de l'homme, là, t'sais.
Oui, c'est vrai.
Tu sais, comme je te disais, j'ai visité le château de Lancaster en Angleterre, qui est un des derniers qui ont gardé les collections d'objets qu'on utilisait pour ne serait-ce que punir des femmes à ces mêmes époques-là. Tu sais, je veux dire, il y a une forme de cruauté qui nous terrifie, qui était assez normale aussi à l'époque. Donc, de trouver une chambre de torture, c'est pas là que c'est le plus surprenant. Mais c'est sûr qu'effectivement, quand on dit sophistiqué, c'est que ben, y a beaucoup de choses. Là, tu sais, on n'a pas tant de détails que ça. Les gens qui ont fait les rapports n'ont pas été si explicites dans les rapports au roi, mais parce que la torture, bon, c'est pas là-dessus, en fait, qu'on va la... qu'elle inquiète, c'est le meurtre. Il y a vraiment une distinction entre les deux. Tu peux torturer pour obtenir des informations politiques sensibles, et si ça bénéficie le roi, il n'y aura pas de problème. Donc, il faut faire un petit peu attention à tout ça aussi. T'sais, on n'oublie pas que c'est quand même une femme qui, à la mort de son mari, est gestionnaire de ce qu'on pourrait qualifier d'une seigneurie, là. Donc, elle a un droit de justice.
Elle n'a jamais rien avoué.
Non, elle s'est tenue assez tranquille. Elle a décidé qu'elle participait pas à son procès puis qu'elle allait pas se couler dans la boue davantage. Donc, de elle, on a très, très peu de détails ou d'informations, outre le fait qu'elle va finir par rédiger un testament à la toute fin quand elle sent qu'elle est sur le point de mourir. Mais tu sais, ça reste assez mineur, je te dirais, comme trace comme communication. Là où elle est la plus verbale, c'est quand elle échange avec son mari et qu'on sent qu'elle a un intérêt pour la torture puis qu'elle échange sur les techniques de torture, justement arracher des ongles, comment aller travailler en dessous des pieds pour énerver les gens ou des choses comme ça. Mais c'est ça, ce qui est un peu compliqué avec son histoire, c'est que au-delà donc des minutes de procès puis de la correspondance, c'est qu'il y a plein de gens qui ont rapporté des ragots, puis là il y a plein de gens qui vont écrire ces ragots-là et ça vient comme créer un flou en fait sur l'histoire d'Elizabeth Bathory. Fait que, tu sais, la chambre de torture hyper high-tech, si tu me permets l'expression. Ça vient beaucoup de la rumeur populaire qui s'est mélangée aux archives officielles. Fait que c'est ça, l'historien va travailler avec les archives officielles. Les ragots, oui, on peut tirer quand même toujours une certaine source de vérité là-dedans, mais reste que ça finit toujours par être des exagérations et avec des traits grosses, surtout dans des régions comme ça, à une époque où on se bat contre la sorcellerie, on se bat contre plein de choses. C'est quand même la région où on enterre des gens avec des trucs dans la bouche parce qu'on a peur des vampires. On est dans la même zone, là. Et c'est sûr que c'est une femme. Et bon, si on prend la Pologne, qui n'est pas très loin, mais même la Hongrie, ce sont les régions où on va avoir dans leur mythologie des créatures féminines quand même terriblement dangereuses. D'ailleurs, The Witcher, série absolument magnifique, mais les livres aussi, l'auteur est polonais et s'est beaucoup, beaucoup inspiré de cette espèce de folklore-là pour créer les créatures que The Witcher tue dans la série, dont la fameuse la Strix. Tu sais, ce sont des femmes. Ils ont des personnages féminins et en fait des créatures féminines qui sont assoiffées de sang, qui sont un peu aussi à l'origine des mythes de vampires dans ces régions-là en particulier, là, avant que la tuberculose arrive et que d'autres choses arrivent et viennent rendre ça plus, plus large. Là.
Moi, j'avais vu aussi qu'une des théories, tu sais, qui aurait sans doute contribué à, je vais dire, à la destitution d'Elisabeth Báthory, si on veut, c'est que justement, c'était une femme puissante et qu'elle aurait pu avoir des ennemis qui ont créé ou du moins grossi l'histoire pour la faire tomber, pour pouvoir s'emparer de ses possessions.
Il faut dire que dans les gens qui vont enquêter, effectivement, tu as des comtes qui sont intéressés à reprendre en fait son palais. Donc, quand elle est arrêtée, ses serviteurs aussi sont arrêtés, ben elle perd la gestion de ce domaine-là. Donc, c'est un des seigneurs mandatés par le roi Mathias Ier qui va en avoir la gestion. Fait que oui, c'est sûr que de ça, pour grossir, je dirais, la rumeur populaire, parce que ben ce sont des possessions de très grande valeur. Mais oui, quand je dis femme puissante, c'est ça, c'est qu'elle gère à la place de son mari une seigneurie. Et c'est ce qui fait qu'elle avait un certain droit de justice et qu'elle n'avait pas à faire de rapport au roi si elle torturait quelqu'un pour obtenir de l'information ou des choses comme ça. Donc, ça y ajoute un certain poids. Et c'est une femme éduquée, elle sait se défendre, elle sait argumenter. Donc, c'est pas une idiote, là. C'est ça qui a fait ça. Mais comment elle en est venue à avoir cette espèce de conviction que le sang des jeunes vierges allait lui préserver sa jeunesse éternelle, ça a toujours été un peu le mystère. Est-ce que cette vieille femme, cette vieille sorcière-là, peut-être une vieille astrologue, tu sais, on peut jouer dans... On est à l'époque de ça, là. Tu sais, on est à l'époque des Catherine de Médicis, on est à l'époque de Nostradamus, on est de John Dee en Angleterre, tu sais, je veux dire, quand on se transpose dans le temps, on joue, en fait, dans ces mêmes époques-là, c'est juste une région différente de la France ou de l'Angleterre, mais on est dans des régions où... le folklore, justement, en ce qui concerne le sang et boire le sang et tout ça, est beaucoup plus riche qu'ailleurs. Fait que, tu sais, c'est tous des facteurs qui viennent comme grossir le personnage. Le fait que c'est une femme éduquée, ben c'est sûr que ça lui donne l'aura pour en faire un personnage de littérature après qui sera plus grand que nature.
Est-ce que aussi être un peu comme les sorcières, tu sais, dans le sens où un coup accusé, d'une manière ou d'une autre, elle pouvait pas s'en sortir?
Ben là, les preuves commençaient à s'accumuler vraiment contre elle. Qu'elle ait eu des ennemis ou pas qui aient beaucoup contribué à faire parler des gens, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont témoigné aussi, il n'en demeure pas moins, comme je te disais, que sa correspondance avec son mari donnait déjà une idée de son intérêt pour une forme de sadisme, au minimum. Comme je te disais, le peu de choses qui ont pu être découvertes sur les terres de son château, mais c'est ça, elle y a le château, mais là... tellement vaste comme territoire, des forêts, etc., tu sais, sur son domaine, que c'est pour ça que les gens peuvent aller jusqu'à du 600, parce qu'il y a combien de corps qui ont peut-être été brûlés, les cendres dispersées, des choses comme ça, tu sais. Et d'ailleurs, c'est ce qui lui arrive, parce que pour ses serviteurs, on refuse qu'ils aient une sépulture chrétienne, là. Je veux dire, pour ces gens-là, c'est Satan, là, tu sais, c'est le diable en personne. Donc, les gens sont incinérés, les cendres sont répandues au gré du vent pour être sûr qu'il n'y ait pas de tombeau, qu'il n'y ait pas de sépulture. Et c'est ce qui lui arrive à Elisabeth Báthory. Donc, quand elle décède à l'âge de 54 ans, on brûle le corps et on répand ses cendres un peu partout dans les terres, dans les forêts, pour être sûr qu'elle n'ait pas de sépulture chrétienne. Donc, pas de chance au paradis, d'une certaine façon. C'est un peu ça qu'il y a derrière. Là. Brûlée par le feu, c'est l'Église, hein, qui fait ça. Donc, il y a une punition divine qui vient en arrière, mais c'est que les gens ne voulaient pas qu'elle soit enterrée en terre sainte, dans un cimetière, à proprement parler, parce que ce qu'elle a fait était complètement antichrétien et plus que démoniaque. Là. Donc, il y a un peu de... Il y a un peu de tout ça qui entoure le personnage.
Puis qu'est-ce qui reste d'Elisabeth Báthory aujourd'hui? T'sais, est-ce que la famille Báthory existe encore? Est-ce que les châteaux sont encore debout?
Non, les châteaux, c'est des ruines de ce que... Faudrait que je revérifie, je t'avoue que j'ai pas poussé. Mais c'est sûr que ça a été retransmis de famille en famille. Mais aujourd'hui, dans ces régions-là, les châteaux sont pas... tu sais, t'as pas le château de... Le beau château à l'époque où elle a vécu. Je sais que l'endroit où elle était en Hongrie, bon, ça reste une zone touristique là, maintenant, mais c'est plus des ruines qu'autre chose. Mais en même temps, bon, ben, ces crimes ont été faits dans des campagnes, dans des forêts. Tu sais, je veux dire, il y a pas de... c'est sûr qu'il existe des petits guides qui disent ou peut-être qu'il y a eu des corps ou des enlèvements, mais tu sais, ça, on tombe dans le folklore populaire pour quelqu'un qui veut visiter, quelqu'un qui veut faire un vampire tour du côté, tu sais, de la Hongrie, de la Roumanie, tu sais, qui veut faire ces pays, ça se fait, là, mais tu sais, je veux dire, ça devient en fait un appât touristique plus qu'autre chose. Parce que le château n'est plus occupé, là, à proprement parler, puis de toute façon, il va être associé à quelque chose de vraiment terrible, peu de gens vont vouloir.
Ouais, tu veux pas aller passer une nuit là-bas, là.
Ben aujourd'hui, il y aurait peut-être des gens qui paieraient pour le faire. Donc, c'est pour ça qu'on peut pas dire « Ah, voici la chambre de torture, ça n'existe plus, là. » Tu sais, je veux dire, il n'y a pas d'image de ça, il n'y a pas de trace de ça. Puis c'est une région qui va être soumise à tellement de guerres par la suite, puis déjà à son époque aussi, là, parce que là, tu as les Ottomans là-dedans, il y a plein d'affaires, là. Ça bouge énormément. Mais tu sais, ce qui reste d'elle, en fait, c'est le mythe. Parce que c'était une femme connue, parce que c'était une femme. Voilà. C'était une femme qui commettait des crimes odieux et en un nombre assez impressionnant. Parce que, comme tu le dis, ses ennemis qui auraient voulu s'accaparer les terres ont probablement contribué à répandre encore plus cette rumeur-là pour affaiblir complètement la famille Bathory, qui perd un peu de sa... Tu sais, je veux dire, qui va perdre beaucoup de prestance avec quelque chose comme ça.
Comprends.
Ben, déjà, bon, tu sais, tombée enceinte pour une jeune aristocrate, tu sais, avant le mariage, elle avait déjà commencé à teinter un petit peu la lignée dans tout ça. Ben, tu sais, c'est qu'on a créé un mythe, en fait, macabre, et le macabre plaît. Et comme je te dis, le fait que ce soit lié à la même région que Vlad, le comte de Dracula, qui est devenu, bon, Dracula, ça en rajoute toujours un peu, parce que c'est les mêmes régions. Mais comme je te disais, c'est des régions où déjà, bien avant ces personnages-là, l'idée d'avoir des créatures qui se nourrissaient d'enfants ou du sang de jeunes enfants, donc la fameuse strict qui peut porter plusieurs noms, ou les Nyx, qui ont donné d'ailleurs peut-être le personnage de Saint-Nicolas d'ailleurs, qui sont des créatures des eaux, mais qui dévorent des enfants aussi, c'était très présent, là, je veux dire. L'Église n'avait pas réussi à éradiquer ces croyances-là au sein de la population.
Ouf, une belle époque pour être en vie, hein?
Ça dépend où, peut-être pas sur les terres d'Elizabeth Bathory.
Mais tu voulais parler aussi d'un autre personnage tout aussi gore qu'Elizabeth Bathory.
Elizabeth Bathory arrive tard dans ce genre de mythe de tueur en série. Mais tu sais, bon, elle va être de l'époque d'Henri VIII, là, tu sais, je veux dire, qui quand même se débarrasse de ses femmes et tout ça. Il se passe beaucoup de choses.
Oui, mais c'est sanglant.
Il se passe beaucoup de choses à l'époque de la Renaissance, mais avant elle, la France avait eu un peu son équivalent. C'est qu'il y a des liens. Il y a comme une ressemblance, en fait, entre les deux histoires ici, parce qu'on parle de deux personnages de la noblesse, un homme, une femme, qui vont dans leur château commettre des crimes odieux avec des complices, et il y a cette rumeur d'une sorcière qui collabore dans les deux cas. Et il y a une centaine d'années entre les deux, en fait. Et ce personnage, c'est Gilles de Rais. Gilles de Rais qui a été un compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, donc c'est un personnage historique vraiment avéré, qui a donc combattu pour le roi de France. C'est un seigneur aussi qui possède un grand domaine en France, qui a son château, et lui va l'échapper quand Jeanne d'Arc est brûlée sur le bûcher. Donc, Gilles de Rais, vraiment, là, quand Jeanne d'Arc est brûlée, lui, il ne comprend pas. Il avait une adoration, un dévouement total pour cette femme-là. Puis, il commence à perdre la carte. Il va faire des pleins de pièces de théâtre dans les rues et tout ça, de son domaine, pour glorifier Jeanne d'Arc, parler de son histoire. Ça va pas très bien.
Ben, jusque-là, il a l'air d'un excentrique sympathique. Là, tu sais, ça va jusqu'à temps qu'il se mette à tuer des enfants dans son château.
C'est ça. Donc, lui, on a trouvé des traces de vêtements, de brûlures à l'intérieur du château. il va faire kidnapper plein de jeunes enfants dans les campagnes, souvent dans des campagnes qui sont pauvres. On est à une époque de guerre, hein. C'est la fin de la guerre de 100 ans avec l'Angleterre. Il y a beaucoup, beaucoup de campagnes qui ont énormément souffert de ça. Il y a plein de petits villages ou de gens qui habitent aux limites des villes et tout ça, qui sont finalement, font pas partie vraiment de la société, ils sont juste là. On va en profiter pour kidnapper les jeunes enfants. Souvent, on va les appâter avec des bonbons. Veux-tu venir travailler au château en échange d'un peu d'argent pour ta famille? On dit que l'enfant est mort d'une maladie, puis que finalement, on est désolé, mais il revient pas. Mais dans les faits, il a comme juste été assassiné par quelqu'un. Et dans le cas de Gilles de Rais, lui, son procès, ça va être en 1440. Il y a quand même, de manière un peu plus attestée, il y a une vieille femme qui travaillait pour lui, qui était celle qui kidnappait les enfants. Puis elle va beaucoup contribuer au mythe de la sorcière qui a un sac sur l'épaule avec des enfants dedans, là. À la Hansel et Gretel, là. Parce que c'est un peu ça l'idée, c'est qu'elle avait l'air inoffensive, une vieille dame gentille, une grand-mère, puis qui offrait des bonbons, mais qui kidnappait des enfants, les mettait dans un sac sur son dos, puis les amenait au palais, là. Il y a quand même des parallèles de ce côté-là, parce que ce sont deux personnages puissants, ce sont des seigneurs, hommes, femmes, mais qui vont abuser énormément du fait qu'ils peuvent embaucher qui ils veulent, qui ont de l'argent et tout ça, pour se procurer des victimes. Dans le cas de Gilles de Rais, ce sont de jeunes victimes. Est-ce qu'il y a eu pédophilie? Ça va toujours planer au-dessus de cette histoire-là, mais sans preuve.
Mais est-ce qu'il y avait, lui, une raison, entre guillemets? Tu sais, parce que, mettons, Elisabeth Bathory, c'était pour rester belle et jeune. Lui, c'était comme juste parce qu'il n'avait pas échappé. De télé. J'aime que tu dises qu'il l'a juste échappé. Je veux dire, c'est pas ça, l'échapper, là.
Non, mais... Il va tellement, tellement être désabusé, découragé de l'Église qui n'a pas protégé une sainte. C'est ça, l'on joue là-dedans. Je joue beaucoup dans la psychologie avec Gilles de Rais, qui est beaucoup plus documenté, hein. C'est beaucoup plus solide, en fait, comme documentation aussi, qu'Elisabeth Bathory, où on a un homme qui voit que l'Église, les gens qui sont supposés représenter Dieu, alors qu'on a une femme qui s'est fait donner pour mission de protéger le roi de France et qui parvient et qui est exceptionnelle à ses yeux, va être brûlée comme ça, comme si elle était une sorcière. Pour lui, ça n'a jamais passé. Et il est désabusé par rapport à l'Église, à ses croyances, et il se tourne vers le culte. Et comme Elisabeth Bathory se tourne vers, on ne sait pas comment, cette idée que le sang des jeunes vierges va la préserver, ben Gilles de Rais va tomber plus dans le fait que de sacrifier des enfants, ça va peut-être, on ne sait pas là, exactement qu'est-ce qu'il pensait que ça allait faire, là, mais l'infanticide va avec l'occulte, avec un peu le rite satanique. C'est comme une façon peut-être de punir, en fait, l'Église qui
a failli à son devoir.
Oui, voilà, il n'a pas su protéger Jeanne d'Arc. Fait que c'est sûr qu'autour de Gilles de Rais, il y a comme une grosse histoire, une grosse saga très bien documentée dans laquelle il s'insère. Et quand je dis qu'il l'a échappé, c'est que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, là, il a perdu
la boule complètement.
Complètement,
là.
Complètement. Ce qui fait que c'est difficile de dire pourquoi tu tues des enfants, là. Outre le fait que la victime est facile à kidnapper, les gens ne les demanderont pas. Souvent, ils vont les acheter même à des familles pauvres qui disent bon, mon enfant va avoir une vie meilleure, moi, je suis pas capable de le nourrir. et c'est ça. Et il y a toujours, comme je te disais, cette espèce de... On ignore, en fait, est-ce qu'il les violentait, est-ce qu'il les agressait sexuellement, est-ce qu'il était rendu à ce point-là? Ça, on ne le sait pas directement.
Il s'est fait prendre?
Il s'est fait prendre, c'est exactement la même chose qu'Elisabeth Bathory. Dans son cas, c'est que là, la rumeur populaire, le nombre d'enfants qui disparaissent commence à inquiéter, puis il va y avoir enquête royale, il va y avoir procès, mais on va fouiller son château, puis on va commencer à trouver des preuves, justement, de vêtements, d'enfants et tout ça. Et c'est comme ça que Gilles de Rais va y passer, là.
Puis lui, est-ce qu'il y a eu un procès? Est-ce
qu'il a assisté à son procès? Oui, parce que dans le fond, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on va le menacer d'excommunication. Même si, quelque part, il est déçu de l'Église, pour lui, s'il est excommunié, il ne pourra pas aller au paradis, il ne pourra pas rejoindre Jeanne d'Arc d'une certaine façon. Fait que la menace d'excommunication a fait en sorte qu'il a fini par avouer ses crimes.
Mais comment il n'a pas passé à l'excommunication avant de commencer à tuer des enfants?
Il ne semble pas avoir nécessairement pensé à ça. T'sais, quand tu ne vas pas bien, tu ne penses plus. Là. Mais il va commencer à avouer ses crimes. On parle peut-être de 100-140 enfants qui ont été tués sur une dizaine d'années, d'après les... Tu sais, ça peut être énorme comme chiffre. Et c'est ça. Il y a rumeur de sodomie, mais c'est pas si clair que ça, mais on sait que les enfants étaient torturés avant d'être assassinés. C'est ça. Là, on tombe dans l'infanticide, mais l'infanticide trash, là, si je peux me permettre l'expression, dans son cas. Mais il admet ses crimes, fait que là, c'est sûr que quand t'as quelqu'un qui témoigne puis qui admet, mais là, il y a toujours cette idée, est-ce qu'il admet avec... Est-ce qu'il a sa tête quand il admet tout ça? Est-ce qu'il invente des choses parce que là, tant qu'à le dire, je vais rendre l'histoire encore plus folle? Est-ce que j'ai imaginé moi-même des choses parce que là, je suis dans mon scénario peut-être un peu? C'est un peu particulier comme histoire. T'sais, c'est sûr que dans son cas, je trouve ça un peu terrible de parler de ça, même dans un balado, mais c'est qu'on trouve des morceaux de vêtements, mais on a trouvé 40 morceaux de corps dans. Quand on a commencé à fouiller sur les terrains du château, dans les sous-sols, puis un peu partout ça, des squelettes, là, mais on a trouvé bien des affaires. Fait que le chiffre de 140 est peut-être dans son cas, ou juste au minimum. En 10 ans, c'est pas beaucoup, là. Fait que quand le duc de Bretagne, qui est mandaté par le roi de France, va réaliser tout ça, là, je veux dire, alors que c'est un homme qui a défendu le roi de France pour lui permettre d'être couronné, pour que le dauphin de France, en fait, soit couronné dans le contexte de la guerre avec l'Angleterre, compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, qui s'est illustré à la guerre, il y a un choc assez énorme, ben oui, du côté de la France, c'est sûr. Oh, oui.
Mais donc, c'est ça, fait que lui, quand il témoigne, on le sait pas. T'sais, on le sait qu'il a commis des atrocités, mais on ne sait pas exactement en quoi elles consistent, jusqu'où il est allé, qu'est-ce qui s'est passé. T'sais, on le sait qu'il s'est arrivé, mais on n'a pas les détails. Puis c'est correct aussi, là, on veut pas nécessairement...
Il y en a donné, puis on trouve des morceaux de corps et tout ça, mais t'sais, c'est sûr que l'entourage a dit des choses, mais encore là, est-ce que l'entourage... Bon, t'sais, je veux dire, la sodomie, ça m'étonnerait que les gens aient vu ça. T'sais, c'est pour ça que c'est toujours l'idée de, bon, y avait-tu vraiment tant de viols, d'agressions sexuelles que ça, mais c'est très probable. Peut-être que tu sais ces pulsions par l'occulte ont ressorti, puis c'est dit, ben les enfants sont des victimes faciles aussi. C'est ça qui est un peu triste là-dedans. Mais tu sais, c'est sûr qu'une fois qu'il avoue, lui, ce qu'il a, il avoue parce qu'il veut éviter l'excommunication, puis il veut essayer de laver ses péchés. C'est un peu ça, en fait, qu'il fait plier, là. Mais c'est sûr qu'écoute, il a été condamné à la pendaison et au bûcher. Lui, c'est une double condamnation. Ça veut dire qu'on l'a pendu, mais on l'a brûlé en plus pour être sûr qu'il n'y ait pas de sépulture. Mais il a eu droit, par contre, au dernier sacrement parce que la famille, étant très riche, a payé pour ça. Dans l'espoir que, bon, à la limite, il passe par le purgatoire, puis que comme il a admis, puis comme il a essayé quand même de se repentir, il va peut-être un jour atteindre le paradis, tu sais. Il y a tout ça aussi autour dans le contexte de Gilles de
Rais. La religion, c'est fascinant comment ça peut être fort, là, comment les gens avaient intégré ça, puis c'était imprégné, puis c'était vraiment une partie prenante de leur vie. C'est incroyable. Là.
Surtout à l'époque de Gilles de Rais, 100 ans, Elizabeth Bathory n'était pas encore vraiment à la Renaissance où on veut expliquer le monde sans nécessairement l'explication divine. Donc tout s'explique par Dieu aussi, fait qu'il y a comme une forme. C'est pas tant un lavage de cerveau, mais c'est par habitude, en fait, que tout s'explique par Dieu, tu sais. Et alors que rendu à l'époque d'Elizabeth Bathory, lentement, mais sûrement, l'esprit critique, où on peut dire, ben, Dieu, oui, il existe, on ne remet pas son existence en question, mais on veut essayer de comprendre le monde, sa dynamique, le corps humain, sans toujours avoir cette réponse, ben, c'est Dieu qui a fait ça. C'est en fait ce qui met un Galilée à mal, parce que, ou un Copernic, quand il arrive avec les théories de l'héliocentrisme, on entre vraiment là-dedans, là. Cette idée que là, ils remettent en question le fait que, on remet pas en question que Dieu a créé le monde. On est juste en train de dire que la planète Terre est pas au centre. Mais juste ça!
C'est scandaleux, là!
Ce que ça a provoqué, tu sais, Galilée a fini ses jours assigné en résidence à être obligé de dire que c'était uniquement une hypothèse et non pas la vérité. Ça a été long avant que Jean-Paul II en vienne à le pardonner. C'est ça! Non, pour rentrer dans des gros débats. Mais c'est ça, de Gilles de Rais, la religion est plus présente dans son... Ben, c'est son lien avec Jeanne d'Arc, c'est déjà quelque chose, hein, dans cette histoire-là. Mais quand on compare Gilles de Rais avec Elizabeth Bathory, ben, tu sais, ce qu'on voit, c'est les victimes faciles, les victimes pauvres, des gens en position d'autorité et de pouvoir qui peuvent abuser comme ça sans nécessairement... pendant des fois dizaines d'années pour Gilles de Rais, vingtaine d'années pour Elizabeth Bathory, sans que personne ne s'en inquiète à un moment, à une époque où, bon, la notion de justice n'est pas du tout la même chose que pour nous aussi. Puis la façon d'enquêter n'est vraiment pas ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas... Gilles de Rais, c'est parce qu'il y avait vraiment des morceaux là, qui ont pu être trouvés, mais tu sais, c'est ça. Elizabeth Bathory se débarrassait beaucoup mieux de ses victimes, de ce qu'on en sait.
C'est quand même une drôle de phrase. Elle était meilleure à ce niveau-là.
Elle était peut-être plus intelligente.
Mais... Gilles de Rais, lui, qu'est-ce qui reste aujourd'hui? T'sais, est-ce que son château est encore là? Est-ce qu'il y a un tombeau? Est-ce qu'il y a un cimetière?
Ben non, les cendres sont répandues. C'est pourquoi on l'a pendu et brûlé. C'était pour qu'il y ait la double condamnation. En fait, pourquoi? C'est que la pendaison, c'est la comment le civil, le droit civil punit. Le bûcher, c'est le droit canon qui punit, c'est l'Église. Et comme il a offensé les deux, il y a eu la double condamnation. La seule chose qu'il a eu droit, c'est des derniers sacrements avant qu'il fasse tout ça sur la dépouille parce que la famille était très riche, a été capable de payer pour tout ça. Là. Fait que non, dans Gilles de Rais, on est encore dans ruines et lieux possible de crime, tu sais, je veux dire, la France s'est tellement développée depuis qu'il ne reste plus vraiment là, de lieu pour pouvoir vraiment réétablir un peu cette histoire-là ou quoi que ce soit. Ce qu'on a, c'est les archives, le témoignage, les aveux de Gilles de Rais et tout ça, ce qui est quand même assez extrême.
Élisabeth Báthory, Gilles de Rais, deux personnes de la noblesse qui ont du pouvoir. Les deux ont un événement déclencheur dans leur vie. Élisabeth, on sait pas trop c'est quoi. Gilles de Rais, c'est Jeanne sur le bûcher. Deviennent complètement fous, se mettent à tuer des gens de basse extradition, se font pogner, meurent. C'est ça, en gros. J'ai-tu bien résumé?
À peu près. Oui, oui, mais tu sais, quand l'esprit déraille, tu sais, c'est un peu ça aussi, là. Quand t'as une fascination pour l'occulte, pour quelque chose qui n'a pas de logique, ben là, tu sais, ça peut prendre des ampleurs spectaculaires. Mais tu sais, il y en a eu d'autres, là, dans l'histoire, là, tu sais, des infanticides, là. Il y en avait un au Yémen, Choupenchatir ou quelque chose comme ça, je m'excuse, c'est de mémoire, j'y vais de mémoire, mais tu sais, genre au Yémen, qui kidnappait plein d'enfants, les tuait, les sodomisait. Parce que lui aussi avait un certain rang social, puis il y a des gens qui avaient tenté de le réhabiliter en disant ah non, c'est un personnage important de notre histoire du point de vue politique, et c'est un coup monté, cette histoire-là. Puis là, il y a plein d'historiens médiévistes qui avaient dit non, excusez, on a des archives ici. vous pouvez pas essayer de réhabiliter un personnage comme ça. Fait que tu vois, des fois, quand c'est des personnages puissants, ça affecte en fait la vision qu'on a de l'histoire de certaines régions aussi. Qu'on le veuille ou non, la Hongrie, Transylvanie, aujourd'hui, ils misent là-dessus puis ils jouent le jeu. Mais je veux dire, c'est sûr que ça crée quand même un attrait touristique qui est plus macabre que quelqu'un qui se dit « je vais aller visiter Versailles ».
Puis est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter sur Élisabeth Báthory, sur Gilles de Rais ou sur...
Je pense que j'ai dû donner assez de détails glauques pour vous satisfaire. On a un épisode de style Halloween.
Oui, c'est vrai!
Mais qui est basé sur la réalité. Ben, tu sais, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter? Tu sais, c'est juste de se dire que dans l'histoire, il y en a eu plein des crimes comme ça. Mais souvent, aujourd'hui, maintenant, avec tout ce qu'on a, tu sais, pour condamner les gens, puis quand le profilage se fait, on est comme, aïe, et puis ça, il y a une fascination, là, pour ça, là. Psychopathe, tueur en série, tout ça. Ben, tu sais, ce sont des exemples qui démontrent que c'est pas né avec la société industrielle contemporaine, puis tu sais, ces bobos modernes. C'était déjà là avant, tu sais. C'est juste que ça, il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'images, fait que tu sais, ça marque peut-être un peu moins l'imaginaire pour ces raisons-là, mais ça reste tout aussi terrible en fait quand on commence à jouer avec les chiffres puis les descriptions de ce qu'ils ont fait.
Puis en espérant qu'aujourd'hui rien de tel pourrait se reproduire, tu sais, j'ose espérer que les gens le diraient plus tôt.
Ben maintenant c'est sûr, ça va plus vite, je veux dire, à moins d'être un tueur en série qui est bon pour camoufler ses crimes, tu sais, on en a là. Ben,
je le sais, on reviendra à ces tueurs en série. Moi quand j'ai appris qu'il y en a genre full qui sont actifs ou qui n'ont jamais été retrouvés, c'est hallucinant. Bref. Ben Evelyne, ben premièrement, merci aux auditeurs qui nous ont proposé le sujet d'Élisabeth Báthory.
On était dans le sanglant aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Mais parce qu'on la surnomme la comtesse de sang, d'ailleurs, parce que, ben, on n'a pas besoin de vous l'expliquer, là, vous aurez compris.
Mais elle n'entre pas, c'est pour ça que, ben, pour terminer, tu vois, tu sais, on la met dans la catégorie des vampires, mais le sang ne fait pas le vampire, je sais pas si tu me suis, tu sais, je veux dire, dans ses actions et tout ça, on parle plus de gens sadiques, tu sais, que de ce qui pourrait entrer dans les catégories des vampires, où il y a plutôt l'idée d'une contagion, ou de gens qui sont mordus pendant la nuit, de cimetières qui sont ouverts, ou des tombeaux qui sont ouverts, où on pieute des gens, tu sais, on n'est pas du tout là-dedans, en fait, avec Élisabeth Báthory, donc elle sort un peu du cadre.
Elle buvait pas le sang, elle ne faisait que se baigner dedans, et c'est là où on tire le trait du vampire. Evelyne, merci beaucoup de nous avoir partagé tes connaissances.
Ça m'a fait plaisir.
Et merci à vous de nous avoir écoutés à la maison. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'Evelyne et Gabriel font un podcast.
Et traumatisent leur public.